Allez, c'est parti pour ce sport matin dimanche du 18 septembre. Dans quelques secondes, nous allons retrouver Vincent Nory qui participe actuellement à la Citadine en football. Première journée du championnat de Régional 1 pour les Bressuirais qui se sont imposés toujours en Régional 1. Partenaires viennois retrouver ce niveau après des décennies. Les joueurs de Philippe Souchard commencent par un nul. L'info sport de la semaine, hein, c'est la retraite de Roger Federer. Alain Moreau vient nous donner son sentiment pour notre rubrique supporter d'un jour, supporter toujours. Rencontre aussi avec le triathlète Nicolas Olillon. Et puis, je vous interdis de ne pas écouter cette émission jusqu'au bout.
Salut, c'est Hugo. Bon dimanche à tous et soyez à l'écoute de Sport Matin Dimanche.
Grande interview en effet du bassiste Hugo pour clore ce SMD. La météo de ce dimanche, beau et frais. Un grand soleil encore aujourd'hui, mais grosse fraîcheur au réveil avec des minimales par endroits qui ont pu descendre à 5 degrés. Environ 18 à 20 pour les maximales.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Pour démarrer ce SMD, direction donc Bressuire, on retrouve Vincent Nory en direct que l'on vient interrompre hein, en pleine course Vincent puisqu'il participe à la Citadine. Salut Vincent, tu nous confirmes qu'il fait bien frais hein, ce matin Vincent.
Ouais, c'est un super temps, mais qu'est-ce que vous m'avez fait perdre comme place au classement général? J'ai été obligé de m'arrêter. L'ambiance est formidable, plus de 350 marcheurs et coureurs. Les marcheurs sont partis pour le 6 km. Les coureurs 9 ou 14, on est inscrit sur les 14, même pas peur. Pauline Croiset qui me double, Alain Liot juste devant qui m'a doublé également. L'ambiance est super agréable, le temps est magnifique. On est passé sur ces 4 premiers kilomètres par le théâtre, par le lycée Saint-Jean, par le dojo, par le lycée Genevois, par la caserne des pompiers. Et à chaque fois, il y a une super ambiance qui nous est réservée. Charlie Blanchard, au niveau du réveil, il avait mis du rock pour bien nous dynamiser sur cette montée de marche. C'est vraiment une très très belle ambiance. Et puis c'est pas chronométré, tout est cool. Alors je fais pas exprès, hein. Je fais pas exprès d'être un peu à bout de souffle. Il me reste encore 10 km. On va arriver sur le stade Malabry. Je pense qu'il y a une montée de marche qui nous attend. Je pense aussi, David, qu'il y a un très très beau SMP au programme.
Oui.
J'ai entendu le sommaire, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Et à très vite sur les ondes de Colline et on salue tout le monde.
Et on ne te retarde pas plus Vincent, allez repars courir, il te reste 10 km, bon courage Vincent, salut.
C'est parti, ciao.
Salut, bon dimanche à toi. On parle football maintenant avec un petit mot de Ligue 1, vous rappelez que Lorient s'est imposé à Auxerre vendredi 3-1, ce samedi Lille a battu Toulouse 2-1, victoire de Montpellier également 2-1 face à Strasbourg. Les matchs de ce dimanche, Reims-Monaco, Brest AC Ajaccio, Clermont 3, Marseille-Rennes, Nice, Angers, Nantes, Lens et puis ce soir le gros match à 20h45 avec les Lyonnais qui accueillent le Paris Saint-Germain. La Ligue 2, rien ne va plus pour les Chamois qui ont subi une nouvelle défaite ce samedi, battu 3-0 à Amiens. Sixième défaite en 9 journées pour les Niortais qui occupent désormais la dernière place du classement. Et il faudra absolument retrouver la victoire lors du prochain match, à réception de Guingamp, 5e, samedi 1er octobre. Le match à vivre évidemment sur Colline. Les autres... Le classement, un petit mot du classement de cette Ligue 2 avec les Sochaliens hein, qui sont premiers devant Le Havre et devant Bordeaux pour le podium. Et puis les quatre derniers, on rappelle qu'il y a quatre descentes hein, cette saison. 17e Nîmes, 18e Saint-Étienne, 19e Quevilly-Rouen et donc les Niortais qui sont bons derniers de ce classement de Ligue 2 avec pour le moment 7 petits points. En national, je vous rappelle que vendredi, Cholet s'est incliné à Dunkerque, 3-0. Les Choletais sont 10e en national 2. Ce samedi, la défaite des Herbiers à la réserve d'Angers, 3-2. Les Herbiers, eux, sont 8e. National 3 Nouvelle Aquitaine avec les Niortais, la réserve des Niortais qui s'est incliné au Stade Poitevin 1-0. Neuville a dominé Bayonne 2-1. La victoire de la réserve de Bordeaux 2-1 également à Guéret. Large victoire de Libourne face à l'Esch Cap Ferré 6-1. Chauvigny s'impose à Anglette sur le score de 4-2. Victoire de Porte de l'Entre-deux-Mer 2-1 à Châtellerault. Match nul entre Stade Montois et la réserve de Pau 2-2. La Nationale 3, Pays de la Loire avec la victoire de Saint-Philbert 4-2 face à Sablé. Chalamba Saint-Nazaire 3-1. Changer et Le Mans se quitte sur un nul 2-2. Victoire de Fontenay face à Beaucouzé 1-0. 1-1 entre Laval et Le Poiré. Victoire de La Roche VF 4-1 à Vertou. Et puis La Roche Ezo s'est incliné sur sa pelouse battue par Pouzeau. Victoire de Pouzeau, j'en ai fait à La Roche Ezo 3-1. La régionale 1, poule A, c'était donc la première journée ce samedi pour les Bressuirais qui sont imposés 4-1 face face à Rochefort. Les Bressuriers démarrent donc la saison par une victoire nette, mais qui aura mis du temps à se dessiner. Écoutez l'analyse de Jean-Michel Bernier.
Victoire large et logique du FCB face à Rochefort 4-1. Rochefort ayant marqué à la 90e minute, mais un match un peu curieux, puisque Bressuire aurait pu mener 3-4-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Et nous n'avons marqué que à la 45e minute sur un superbe tir d'ailleurs en dehors des 20 mètres. La deuxième mi-temps était beaucoup plus stabilisée. Nous avons marqué 3 buts sur de superbes actions. Un FCB qui a confirmé ses bonnes dispositions et montré lors du match contre Poitiers, mais face à une équipe quand même de Rochefort que j'ai trouvé personnellement un petit peu faible.
Écoutez maintenant l'analyse du coach du FCB, Patrick Olive.
On était tous un petit peu tendus pour lancer le championnat, moi le premier, et je pense que ça s'est vu sur les joueurs parce qu'on aurait dû marquer assez vite et on a été nerveux et on n'a pas fait les bons gestes. Et donc après, il faut se débrider, il faut arriver à ouvrir le score pour que ça se passe. Donc c'est pas le meilleur match qu'on fera dans la saison, je pense, ou qu'on a fait depuis le début de la prépa, mais par contre c'était important de le gagner. J'aurais aimé qu'on ne prenne pas de but, mais en tout cas, une victoire, ça s'apprécie pour une première journée, et puis après, il faudra préparer la suite. Il y avait de l'implication, du sérieux, mais on était un peu sur un faux rythme aussi. Et on n'arrivait pas, tant qu'on n'arrivait pas à marquer, dans les têtes, c'était pas simple. Le but à la mi-temps nous a vraiment fait du bien, mais on n'a pas été très bon en deuxième. Mais bon, voilà, ça a ouvert le jeu, quoi. Avant qu'on creuse l'écart, ils auraient pu revenir aussi. Donc on n'était pas tranquille, malgré que je pense qu'on aurait mérité un avantage plus tôt.
Est-ce que l'équipe de Rochefort s'est pas un petit peu faible quand même?
Alors, je pense que déjà, ils sont un petit peu en retard dans la préparation. Parce qu'il y avait des joueurs, j'ai senti un peu fatigués au fil du match. Mais ils ont de la qualité, ils peuvent peser devant. Donc il faudra voir dans les matchs à venir. Ils avaient des joueurs pas qualifiés aussi. Donc voilà, à voir pour la suite. Je pense qu'ils ont un petit retard de préparation et que ça nous a bien arrangé aujourd'hui.
Le coach du FCB, Patrick Olive, le FCB qui fait donc qui commence par une victoire face à Rochefort 4-1 dans cette régionale 1. Et puis pour Parthenay-Viennet, et ben ça démarre par un match nul face à Montmorillon, 1-0 et plutôt un bon début pour l'entraîneur Philippe Souchard.
C'est un match, on va dire un match d'ouverture avec un peu de stress, je pense, pour Parthenay, parce que c'était leur premier match en R1, donc forcément un peu stressé. Mais ouais, ça a été un match assez fermé. Face à une équipe de Montmorillon qui a un peu l'expérience quand même de jouer à ce niveau-là, et puis ils ont quelques joueurs intéressants, donc voilà, j'ai vu des choses intéressantes à Parthenay. On aurait pu faire mieux, on aurait pu marquer à la 5 minutes de la fin parce qu'on a une grosse occasion, mais le score est normal, hein, partout, voilà, c'est un match très très fermé, très peu d'occasions de part et d'autre, donc c'est plutôt un point satisfaisant, content, parce que les joueurs avaient très très envie de commencer ce championnat, et puis voilà, c'est la R1, c'est notre cours, donc faut s'habituer à ce niveau-là. Eux, j'ai même envie de te dire, ils ont une occasion, ils la mettent, voilà, c'est tout ce qu'ils ont, donc c'est une petite erreur de notre part et on la paye cash, voilà, bon, ben, ça commence. Donc je suis content parce que les joueurs ont eu envie, ont été présents dans le jeu, il y a eu des choses intéressantes, et puis on a pu voir que face à une équipe expérimentée de R1, et ben on n'a pas été ridicule, loin de là, quoi.
Philippe Souchard, entraîneur de Parthenay-Viennet, qui débute donc ce championnat de régional 1 par ce nul face à Montmorillon, 1-0. Autre résultat, Buxerolles a battu La Rochelle 3-0, 0-0 entre Chaurey et Saint-Jean-d'Angély, 0-0 aussi entre Ligugé et Noyobier, 2-2 entre Royan-Vaux et Niort-Saint-Liguer, et puis la victoire large de Thouars 4-1 face à la réserve de Poitiers. En régional 1 féminine, ça joue cet après-midi pour les Bressuires qui accueillent Asmur. On débutait aussi le championnat de régional 2 dans la poule A. Sachez qu'hier, les Chauvigny et Chéry-Saint-Gelais se sont quittés sur un nul 0-0, victoire de Bressuire un intrait, 3-1, victoire du Talus à Saint-Savin-Germain, 2-1 cet après-midi. Beaumont accueille Niort-Saint-Florent, Montcouton joue face à Leroy Angoulême et Saint-Sauveur joue face à Châtellerault. Dans la poule B de cette régionale 2, sachez qu'hier, Chauray s'est incliné, la réserve de Chauray a perdu à Périgny, 3-1. La régionale 3, première journée aussi pour la régionale 3. Dans la poule A, tous les matchs ont lieu cet après-midi. Notez les matchs Ozon, Aubin, Rortais, Pays de Loing, Ligugé, Portugais de Châtellerault, Cerizay, Saint-Varon, Pierre-Gé, Neuville, Thouars, Saint-Cerbouillet, Évrine. qui accueille Buxerolles en régional 3, toujours donc dans la poule B. Hier, 3 matchs, Selverine battue sur sa pelouse par Onis AFC, 4 buts à 0, 0-0 entre le PMX Santé et Niort Saint-Liguerre. Et puis Vouillé, Armel le nul de Caponis, un but partout cet après-midi à venir, 79 à l'Alleu, Niort Saint-Florent, Nieul-sur-Mer et Pays Mélois face à Effre. On termine cette page football et cette première partie du SMD ce matin avec les championnats départementaux, départemental 1 et 2. La première journée aussi pour les championnats départementaux ce week-end en départemental 1 hier. Bressuire battu sur sa pelouse par Interbocage 1-0. Les matchs cet après-midi, Fontenay, Saint-Symphorien, FC Otiz, Le Talus, Hervaux, Saint-Jouin, Neuil-Aubier, Gatifoot, Pierre Gentonnet, Saint-Aubin-le-Clou et Terve qui reçoit Mosée sur le Mignon de départemental 2 Poule Nord avec hier le derby entre Cerizay et les Portugais de Cerizay. Ce sont les Portugais qui s'imposent 2-1. Les matchs cet après-midi avec FC Comores face à Saint-Vaon, Pierre-Jay, Louzy, Montcouton, Pays Tenzéen, Beaulieu-Breuil, Thouars, Parthenay-Viennet et Vraire Saint-Léger face à Chanteloup, Courlet-Chapelle. Enfin, la poule sud de cette départementale de deux résultats hier, victoire de Beauvoir à la Crèche 2-1 et Val-de-Boutonne qui bat facilement Saint-Martin-les-Mels 5-1. Reste 4 matchs donc à jouer cet après-midi. Effre face à Val, Choré face à Buslore et Chiré-Saint-Gelais face au FC Boutonnais et Sud-Gâtine qui accueille Brulin. Roger Federer a donc mis un terme à sa carrière jeudi dernier. Pour l'évoquer, nous avons avec nous quelqu'un qui connaît très très bien le milieu du tennis, actuel président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, ex-président du Tennis Club de Bressuire. Il a été aussi vice-président de la Fédération en charge des compétitions. Bonjour Alain Moreau.
Bonjour David.
Merci d'être avec nous sur Colline ce matin Alain. On peut dire Alain que c'est une grande page du tennis et du sport qui se tourne avec la retraite de Federer.
Oui, bien sûr, c'est un mythe qui va pas disparaître parce que comme c'est quelqu'un qui a fait une carrière tennistique fantastique et qui est je crois amoureux fou de tennis, il va rester dans le tennis forcément. Donc on entendra parler de lui mais autrement.
Ce que tu appréciais chez lui, chez Roger Federer, c'est son élégance sur le court, hein, c'est ce que souvent les commentateurs disent, et toi aussi, hein, c'est ce que tu retiendras de lui.
Ce que je retiens, c'est sa technique de jeu, c'est ce qu'on enseigne c'est ce qu'on aimerait que tous nos jeunes joueurs jouent comme Roger Federer. C'est presque la perfection sur le plan technique, il savait tout faire. Voilà, alors c'est pas parce qu'on a la technique idéale que on devient forcément le meilleur joueur mondial, mais lui il était avec sa technique idéale, il avait tout, il avait le sens tactique, le physique, voilà, l'élégance en plus l'élégance, donc c'est ce qui fait que ça restera toujours un très très grand joueur.
Un Federer que tu as eu la chance de voir jouer plusieurs fois et notamment à Roland Garros.
Oui. Ah oui, je l'ai vu. Je l'ai vu assez souvent puisque j'assistais au tournoi et c'est vrai qu'on ne manquait pas à ces rencontres.
Est-ce qu'on peut dire que Roger Federer a permis au tennis d'être encore plus populaire? Est-ce qu'il a emmené ce sport à un autre niveau?
Ce qui a été très populaire aussi, c'est bon d'abord parce que Roger Federer a fait partie du grand joueur qu'on a connu, mais c'est surtout la rivalité qu'il a eue. Et depuis 20 ans, c'est cette rivalité avec Nadal, notamment, et puis Djokovic un peu plus tard, qui est un peu plus jeune et qui est arrivé un peu plus tard. Et là, quand on voit ce qu'ils se sont partagés comme titre, les trois, plus un petit peu Andy Murray, l'anglais, c'est formidable. C'est ce qui a fait la grandeur et le mythe Federer, c'est-à-dire toutes ces bagarres, ces matchs formidables on a pu assister, c'était assez extraordinaire. Il y a eu des matchs au couteau, en ne sachant pas qui allait gagner, mais Federer, c'était son attitude sur le court, jamais, alors qu'à 19 ans il perdait ses nerfs, là il s'énervait plus, il avait maîtrisé parfaitement le jeu et son mental.
Merci Alain de ton témoignage.
Voilà, mais écoute, il y aura peut-être un nouveau Federer bientôt.
Mais on espère. Merci Alain, merci d'être avec nous ce matin. Salut Alain Moreau, donc venu nous parler de Roger Federer qui a donc mis un terme à sa carrière, c'était jeudi dernier. On parle aussi triathlon dans ce Sport Matin Dimanche pour revenir sur la très belle perf du Neusévrien Nicolas Onillon. Il a remporté en effet le triathlon le Bren Triman au Blanc dans l'Indre le week-end dernier, un half Ironman de 1,2 km kilomètres, 9 de natation, 90 kilomètres de vélo et un semi-marathon, c'est déjà pas mal, en un peu plus de 4 heures. Très belle perf pour celui qui est aussi prof de PS dans un lycée bressuré, qui s'est donc parfaitement remis de sa grave blessure au bassin consécutive à une chute de vélo il y a de cela 2 ans.
Un de mes principaux adversaires, c'était Benjamin Chiron, qui est bien connu en triathlon, qui est triathlète professionnel et qui a déjà gagné plein de triathlons longue distance. Mais il a un point faible en natation, et donc j'ai voulu prendre vraiment de l'avance en natation. J'ai nagé assez rapidement, j'ai pas forcément, je fais de la gestion en natation, donc je suis sorti en tête de l'eau avec 5 minutes d'avance sur lui.
Et, ouais, t'as très vite marqué les esprits en fait.
Oui, je pense que j'ai voulu un peu le décourager pour qu'il ait vraiment du retard, parce qu'il y a une bagarre un peu psychologique aussi. Et puis par contre, normalement, je m'attendais à ce qu'il revienne en vélo. Mais par contre, là où je peux dire que j'ai vraiment fait mon meilleur temps vélo, mon meilleur vélo depuis que je fais du triathlon sur cette distance, j'ai un capteur de puissance sur mon vélo et c'est mon record de puissance et mon record de vitesse sur la partie vélo.
Ça veut dire que ce capteur que tu avais déjà peut-être avant, mais ça t'aide à gérer ton effort?
C'est ça, ça aide à gérer l'effort. Habituellement, je suis autour de 270 watts sur des alphes sur cette distance. Et j'étais à 300 watts dimanche. Alors j'étais toujours un peu au-dessus, mais les jambes allaient bien. Donc j'ai pris ce risque de le faire au-dessus de ce que j'ai l'habitude de faire.
On imagine que l'écart s'est accru même?
Oui, du coup, au lieu de diminuer, l'écart s'est accentué, puisque je suis parti en course à pied avec 7 minutes d'avance sur Benjamin.
Et alors après, comment toi, c'est plutôt aussi ton truc, la course à pied, comment t'as fait cette dernière épreuve? T'as plutôt géré ou t'as toujours voulu creuser cet écart?
Non, là j'étais plus en gestion. Je sais que Benjamin est capable de faire un semi-marathon en 1h12, 1h13, donc fallait pas que je me relâche, fallait au moins que je fasse autour d'1h20 pour pas qu'il me rattrape, ce qui est jamais gagné d'avance sur ces distances-là. Sur longue distance, tant qu'on n'a pas passé la ligne, on peut avoir une défaillance. Donc on va dire que j'ai géré ma course à pied en mettant à 95%, en gardant toujours une petite marge de sécurité.
Alors on se dit quoi maintenant que tu as réalisé cette perf? D'abord tu penses quoi et puis tu te projettes comment?
Là je me dis que la conclusion de cette saison, c'est que c'est la distance half qui me plaît le plus maintenant. Avant, il y a encore quelques années, c'était la distance inférieure. Mais là je pense que l'année prochaine je vais me concentrer sur cette distance, avec toujours quand même l'idée de faire un Ironman dans la saison, plus par défi.
Le triathlète Nicolas Onillon au micro de Vincent Nori. Quelques résultats encore à vous donner avant donc la belle et grande interview de Hugo Haine. En National 2 masculine en basket, sachez que Leisner a été battu sur son parquet par Dax à 62 à 60. En National 3 féminine, on joue la première journée ce week-end. À noter que le Smash Vendée ce samedi s'est incliné à Boigny sur le score de 70-67. Les autres matchs ont lieu cet après-midi, notamment pour les Chorésiennes qui s'en vont jouer sur le parquet des Herbiers. Le handball avec la LBE, les Celloises qui continuent sur leur belle lancée. Nouvelle victoire à Mérignac, cette fois-ci 28 à 26 pour Celles-sur-Belle. National 1 féminine avec la défaite par contre des Montcoutantais battues à Mérignac 24-21. National 1 masculine avec l'équipe de Pouzauges battue dans sa salle par Mainvilliers-Chartres sur le score de 26 à 34. En National 2 féminine, la réserve de Celles-sur-Belle s'impose face à La Roche-sur-Yon 24 à 22. En National 3 féminine, la première journée ce week-end avec les filles de Praec qui se sont imposées ce samedi face à Rochefort sur le score de 36 à 27. Et puis ce dimanche, sachez que le ZES en va jouer du côté de La Rochelle. Enfin, en National 3 masculine, pour terminer cette page, la victoire de Capolimoges qui a dominé l'entente le ZESL sur le score de 39 buts à 29. Et puis, pour terminer cette page résultat, le rugby avec le top 14 et La Rochelle qui a écrasé ce samedi l'équipe de Perpignan. Victoire du Stade Rochelais 43 à 8. Et puis les autres rencontres ont lieu cet après-midi. La Nationale 2 avec New York qui reçoit Lannemezan. Fédéral 3 joue la première journée. Chauray va jouer à La Roche-sur-Yon. Partenay accueille Puy-le-Bourreau. Première journée de Régional 2 aussi avec le COB qui va jouer à Ponce et première et en Pays de la Loire. Pardon, l'équipe de Thouars qui va jouer à Chemillé. Une belle et grande interview donc pour terminer ce Sport Matin dimanche. Vincent Nori est allé rencontrer le bassiste Boquin Hugo Hay alors que celui-ci prenait quelques jours de repos.
Là, je suis parti un peu en vacances après mon dernier 5000 de la saison à Rovereto fin août. J'ai pris un peu de vacances, un peu de soleil, un peu de plage, un peu de visite. Donc couper bien ça, essayer de digérer les frustrations de cette année et surtout avoir envie de reprendre.
Vacances jusqu'à quand?
Officiellement vacances jusqu'à, on va dire, dimanche là, au niveau athlétique. Après moi je vais rester à Brossure jusqu'à début octobre, je pense, histoire de pouvoir bien avoir le temps de voir tout le monde, ma famille, mes amis, mes sponsors aussi, c'est important. Et mais là on va quand même commencer à reprendre des dimanches. Là j'ai fait une coupure relative, on va dire, j'ai couru un peu, j'ai fait un peu de vélo, j'ai fait de la marche, mais ça va vraiment reprendre dimanche, je pense.
L'idée c'est vraiment aussi de gommer cette frustration, parce que tu l'as dit, tu l'as redit, et on est bien d'accord avec toi, il faut gommer ça.
Ouais, en fait, on arrive souvent en fin de saison plus fatigué mentalement que physiquement la plupart du temps. Et donc du coup, les vacances, ça permet de bien récupérer à ce niveau-là. Cette année, j'étais pas trop fatigué mentalement parce que ma saison était assez courte et j'ai pas eu de gros championnats et tout où j'ai dû vraiment mettre dedans et où tu perds beaucoup d'énergie à part les Europes. Et donc du coup, j'étais pas fatigué mentalement. Par contre, j'étais frustré, ça c'est sûr. Il y avait pas que des sentiments positifs, donc ça joue aussi sur le moral, etc. Donc c'est sûr que ça fait du bien de couper tout ça, d'essayer de couper, tu vois. Quand j'étais en vacances, j'étais pas trop sur les réseaux sociaux et tout, ça fait du bien. Et après ce qui est bien, c'est que là j'ai déjà l'envie de reprendre, parce que comme j'étais frustré, t'as envie de montrer l'année prochaine, de remettre tout en place et que ça se passe bien. Donc l'envie est là, et ça c'est le plus important après une période de coupure.
Nous on est toujours un peu gourmand, on avait posé la question aussi à Sébastien Michaud l'autre jour quand on l'a rencontré. Vacances, est-ce qu'on s'autorise quelques extras alimentaires par exemple?
Ah oui, faut en profiter quand même la plupart du temps. Enfin, surtout moi, je fais attention à beaucoup de choses. Donc on va dire là, il y a deux semaines dans l'année où c'est vraiment entre guillemets n'importe quoi. Après ça va être une ou deux semaines où on n'est pas obligé de faire attention comme en pleine saison, mais après on va se remettre dedans. Et ensuite ça fait long, hein, où tu essaies de pas faire d'extra pendant une très très longue période, il y a la pression et tout. Donc forcément faut en profiter, sinon tu pètes la câble. Après la période de coupure elle est individuelle. Il y en a qui ont besoin de se lâcher, il y en a qui continuent un peu dans la même lignée, ça dépend. Mais oui, bien sûr, là j'ai bien mangé, je suis allé en Italie, ils mangent bien, il y a des bons restaurants, donc non, on a bien mangé, on a bien bu aussi. Mais après, bon, on va se remettre dedans.
Ce 16 août, 21h17, j'ai regardé, hein, j'ai calculé, Munich, une chute provoquée par le très sulfureux, j'ai pas peur des mots, l'espagnol Katir. Ça va comment depuis, Hugo?
Bah ça va, il y en a beaucoup qui pensent que ça a été très dur après, ou que j'ai eu du mal à digérer.
Mais on a tous eu mal pour toi, Hugo.
Bah, j'ai eu mal aussi sur le moment, et puis j'ai encore un peu mal à l'épaule en vrai. Mais non, la blessure elle est plus morale et mentale, ça c'est sûr. Mais non, ça va. C'est comme je l'ai dit pour l'annonce sélection pour le monde, par exemple. Bah, un sportif de haut niveau, il a pas le droit de rester trop longtemps sur des échecs ou des choses comme ça, parce que sinon on n'avance pas et tu dois vite te reprojeter sur quelque chose d'autre. Et c'est ce que j'ai fait. Après, c'est sûr que si je me pose et que j'y repense, c'est sûr que ça fait encore mal, parce que l'année elle a pas été simple, et là il y avait un bel objectif, j'étais en forme et j'ai pas pu montrer ce que je valais, donc c'est encore dommage. Mais la blessure elle est déjà refermée entre guillemets, dans le sens où c'est comme ça, on peut rien y changer, et on a surtout envie de bien travailler l'année prochaine, de vraiment tout exploser, et qu'on oublie en fait ce passage négatif de la carrière, quoi.
Est-ce que t'as travaillé psychologiquement pour gommer? Alors tu parlais de ces minima que tu fais, mais que la Fédé, enfin on ne sait trop pourquoi, n'accepte pas cette chute. Enfin, est-ce que t'as travaillé un peu psychologiquement là-dessus?
Ouais, le travail il est individuel, ou il est avec mon coach aussi de discuter. Mais moi j'ai pas de préparateur mental ni de psychologue du sport. J'ai pas l'impression d'en avoir besoin pour le moment. Après moi c'est quelque chose, si à un moment donné moi ou quelqu'un de mon entourage me dit que j'en ai besoin, il y aura pas de souci pour y aller. Après le seul truc un peu difficile, c'est de trouver la bonne personne, parce que ça c'est quelque chose qui doit y avoir un très bon feeling, une personne qui te comprend, une personne que toi tu comprends aussi. Mais non, j'ai pas travaillé quelqu'un, c'est quelque chose qui est assez inné pour moi. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait beaucoup de sport ou quoi dans ma jeunesse, mais passer directement à autre chose, et surtout avoir l'envie directement pour quelque chose d'autre, mais que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Enfin, je me souviens quand j'ai fait les médailles, etc. T'es très content pendant 2-3 jours, il y a un peu de relâche et tout, mais d'après directement t'as envie de repartir, et t'as une autre vision sur d'autres objectifs et tout. Et donc là c'est un peu pareil, t'as déjà envie de te projeter sur autre chose, avec là l'envie d'effacer un peu le souvenir de la dernière fois, quoi.
Se projeter et courir aussi différemment ou pas?
courir différemment un peu, oui, dans le sens où on prend de l'expérience à chaque fois qu'on fait des courses. Moi, je suis allé voir le juge arbitre après le lendemain pour qu'il m'explique pourquoi il n'y avait pas eu disqualification. Et à la fin, je lui ai dit, donc ça veut dire que l'année prochaine, si on est dans la même situation, bah, je peux pousser aussi. Je peux y aller vraiment. Il était un peu embêté parce que bah, ça se fait pas de dire ça, mais voilà, j'ai compris ça et je sais que l'année prochaine, bah, je vais devoir être un peu plus méchant entre guillemets et pas me laisser faire. Après, c'est dommage qu'on en arrive là parce que c'était vraiment pas sportif. Juste 30 mètres avant, je suis avec Kripa, un de mes concurrents que j'ai depuis les années juniors, et on s'est frotté un peu, mais c'était frotté de manière cordiale. On voulait notre place, voilà, on s'est touché, mais il n'y a pas eu un geste déplacé. Mais après, Katir, lui, il a fait un geste qui était déplacé. Donc voilà, faut aussi anticiper ça et essayer d'être un peu plus solide et d'être un peu plus méchant. Et ça nous servira pour la suite.
Tu l'as revu, ce Katir ?
Non, je l'ai pas revu après la course. Enfin, si, je l'ai vu après la course quand je suis allé m'expliquer un peu avec lui. Après, non, il m'a bloqué sur les réseaux sociaux et il a bloqué les commentaires sur sa publication Instagram parce que bah, il y avait beaucoup de Français qui venaient commenter. Je pense que au fond de lui, il sait très bien ce qu'il a fait. Donc j'espère que ça l'embête un peu, mais j'ai pas, connaissant un peu le personnage, je pense pas que ça l'empêche de dormir.
Bon, on fait focus sur 2023. Quels sont les objectifs, jeune homme?
Bah, le gros objectif, c'est les championnats du monde à Budapest qui sont fin août. J'ai loupé les mondes l'année dernière, donc là c'est vraiment important de les faire dans l'optique toujours de 2024 aussi, prendre de l'expérience. Comme j'ai dit, voilà, sur ces courses là faut apprendre, c'est des courses en peloton, on n'a pas l'habitude, c'est des courses de championnat, c'est pas des courses de meeting. Donc vraiment, préparer ça, mais surtout de retrouver de la consistance sur entraînement comme j'ai eu ces deux dernières années, les deux années d'avant et pas celle de cette année, où vraiment j'ai pu m'entraîner bien seulement sur la dernière partie de l'année. Donc ça, c'est très très important pour la progression, c'est d'être consistant, pas avoir de bobos, pas avoir de baisse de forme, vraiment trouver la bonne balance dans l'entraînement. Parce que là, si j'arrive à avoir deux années pleines avant les Jeux de Paris, on sait que mon niveau, il va encore augmenter. S'il augmente encore, si je passe le petit palier qui me manque, bah, ça veut dire que là, je vais pouvoir jouer des top 8 au championnat du monde ou des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment l'objectif de carrière. Donc voilà, être en bonne santé, bien s'entraîner, faire des belles compètes, prendre de l'expérience et arriver fort au championnat du monde. Et après, bon, il y a aussi quelques objectifs intermédiaires. Il y aura les championnats d'Europe indoor en mars, où il y a deux ans, j'ai fini sixième. Donc si je peux encore améliorer un peu cette perf là, donc voilà, on va repartir sur avec ces objectifs là et cette volonté de consistance.
Avec une année, tu dis, qui a été perturbée parce qu'il y a eu cette cheville qui t'a gêné.
Ouais, il y a eu la cheville qui m'a gêné dès ma reprise. En fait, je me suis bloqué le pied en vacances, mais c'était des résidus de la saison passée en fait, qui avait été longue, ma cheville. Après, donc du coup, j'ai eu des petits problèmes au niveau des quadriceps parfois, parce qu'en fait, qui compensait la faiblesse de ma cheville. Après, j'ai dû faire une injection de gel pour fluidifier au niveau de ma cheville, donc là encore on a perdu du temps. Derrière, je me suis retordu la cheville, je me suis fait mal autrement. J'ai eu des petits soucis de forme à un moment donné, parce qu'en fait on n'arrivait pas à trouver la bonne balance avec l'entraînement. Donc il y avait des fois où on devait faire des semaines beaucoup plus light parce que j'étais fatigué. Donc voilà, il y a eu pas mal de petites choses qui ont fait que la saison n'était pas optimale. Et ça s'est vu d'ailleurs sur ma forme de l'été. J'avais une bonne forme, mais c'était pas non plus du 100%. Bon, c'est rassurant dans le sens où, on va dire, sur ma forme de base, j'ai fait 13-12. J'aurais pu faire même un peu mieux. C'est quand même, c'est pas mal. Mais on en veut plus, ouais.
Ouais, puis ce qui est hyper exigeant aussi, c'est que c'est des courses d'un jour, quoi. Il n'y a même pas de demi-finale. C'est tout de suite la finale. On n'a pas le droit de se louper. C'est difficile, ça.
Bah, c'est difficile, ouais, dans la course au minima et dans les championnats aussi, parce que, un triple sauteur, il va faire quoi? Il va faire 6, 7, 8 compétitions dans l'année où il a 6 sauts pour se qualifier. Ça fait quand même énormément de tentatives. Nous, on arrive, on a une course, deux courses. Moi, j'ai fait 2 5000 qualificatifs. Un où il faisait 35 degrés. Donc, forcément, ça fait plus qu'un seul, en fait. Et sur celui-là, faut qu'il y ait les conditions météo, faut qu'il y ait les lièvres, faut qu'il y ait les jambes aussi. Ça peut arriver d'avoir pas les jambes sur une course. Donc, ça fait beaucoup de facteurs. Et c'est sûr que mentalement, c'est compliqué à gérer. Faut arriver prêt au bon moment. Et ça, c'est des choses qu'on apprend à gérer. Et c'est des choses qui sont pas forcément prises en compte par la Fédé au niveau des minima et des qualifications, malheureusement. Mais voilà, ça, on a l'habitude, hein, depuis qu'on est jeune, c'est comme ça, c'est des courses d'un jour, et si t'es pas là le bon jour, tu passes à côté.
Oui, mais d'ordinaire, il y a bien des mondiaux où il y a une demi-finale et une finale. Là, ces mondiaux-là, à Munich, ils étaient particuliers.
Oui, en fait, ils n'ont pas mis de demi de série parce que je pense qu'il voulait que Jacob Ingebrigtsen, celui qui a gagné donc le 5000 et le 1500, puisse doubler, en fait, qu'il ait le moins de courses possible à faire sur la semaine, parce que c'est toujours comme ça que c'est fait. Les superstars, on essaie de leur arranger le calendrier pour qu'ils puissent courir le plus possible, parce que ça apporte beaucoup de visibilité, ce qui est normal aussi. Mais là, c'était un peu dommage parce qu'on était 25.
Ouais, donc, c'est énorme, ça.
Ouais, 25, c'est beaucoup.
Il y a 25, et puis en plus, vous courez vite, quoi. Enfin, toi, moi, j'ai eu la personne lambda, je me dis, mais vous êtes à plus de 20 km/h à 25, c'est un peu casse-gueule, si on peut se permettre l'expression.
Ah oui, clairement, c'est. Mais même Mohamed Khatir, hein, je l'ai vu en interview d'après-course, il a dit qu'il aurait préféré qu'il y ait des séries parce que là, ça bousculait beaucoup trop. C'est des courses qu'il faut apprendre à gérer, mais 25, ouais, c'est vraiment beaucoup, surtout 25, là, avec une densité qui était vraiment là. Et puis, du 3 au 4e kilo, ça a vraiment ralenti, donc en fait, ça s'est compacté. Et là, vraiment, on se touche tout le temps, et il faut vraiment faire attention à son placement et tout. Et donc, si forcément on te pousse et que tu te décales d'un demi-couloir, tu te prends les pieds dans les eaux. Donc, c'est ce qui s'est passé. Des courses à 25 comme ça, c'est compliqué, et je pense qu'à l'avenir il y aura des séries. Enfin, aux Europes, ça dépend vraiment des années, on sait pas vraiment comment ils font. Au monde, on sait qu'il y a des séries, donc tant mieux. Donc voilà.
Est-ce que tu as des assurances quant à ces fameux minima pour les prochains mondiaux?
Non, parce que comme nous on le déplore, on a pas de communication avec la Fédé, avec la haute performance, on n'est pas inclus dans le processus de décision. Et
vous, c'est tous les athlètes?
Oui, c'est les athlètes de haut niveau, les athlètes de mon niveau. Après, il y en a qui font partie du cercle de la très haute performance, donc eux, ils vont avoir peut-être un peu plus de contact avec nos dirigeants. Mais nous, on n'est pas considérés. Les mecs comme moi qui valons, on va dire, entre 10 et 20e au mondiaux, on n'est pas vraiment considérés. Donc non, on n'est pas inclus. On attend comme tout le monde que ça sorte dans les médias ou que ça sorte sur le site de la Fédé pour apprendre tout ça. Et on devra anticiper notre saison par rapport à ça. Mais l'année dernière, c'est sorti qu'en janvier, hein, les minima. Donc là, on est en train de construire notre saison, mais on ne sait pas exactement sur quel pied danser, quoi.
Complètement hallucinant.
Hallucinant pour ceux qui ne suivent pas forcément notre sport, qui sont un peu à l'extérieur de nos sports. Mais pour nous, en fait, c'est juste la normalité parce qu'on est habitué à ça. Là, la Fédé nous a conviés fin septembre à une journée où il y aurait un temps d'échange entre la haute performance et les athlètes et leurs coachs. Mais moi, j'hésite à même boycotter parce que c'est un peu tard. On nous a pas parlé cette année. Même après les mondes, il n'y a pas eu de communication. On est toujours pas considéré. Donc bon, vouloir se rattraper en faisant une journée comme ça, je sais pas. Et sachant que l'année dernière, toutes nos remarques, il n'y en a aucune qui ont été prises en compte. Donc ça donne pas vraiment envie d'échanger avec l'équipe qui est en place actuellement, quoi.
Les JO, j'ai regardé, hein, dimanche, ce sera dans 684 jours. Tu l'as dans la tête, le calendrier, ou pas?
Non, je sais que ce sera... Nous, c'est le point d'orgue. Encore hier, j'en ai parlé à mon coach sur la vision qu'on avait des deux prochaines saisons. Voilà, c'est prévu pour... Le but, c'est qu'en 2024, je sois le plus costaud possible. Donc, c'est toujours là, mais comme je le dis depuis quelques années, c'est là dans le fond, mais on est concentré sur les objectifs de moyen terme et court terme. Donc on est concentré sur bien s'entraîner pour être fort à Budapest, prendre l'excellence à Budapest. C'est bien en soi, mais c'est aussi pour Paris 2024. Donc il y a un peu cette double vision qu'on a toujours.
J'ai envie de te poser la question sur deux images qui me viennent à l'esprit. Là, c'est ces championnats de France où tu as quand même été un peu royal, permets-moi l'expression. Et puis ces championnats d'Europe avec Sébastien Michaud, le SBAC, sympa aussi tout ça.
Ouais, les championnats de France, c'était une course sympa dans le sens où il y a eu un scénario un peu fou. On a laissé une échappée, entre guillemets, quelque chose qui se fait vraiment quasiment pas sur des courses comme ça. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'est une des seules courses de l'année où j'ai pris du plaisir vraiment. Donc c'est sympa. Après, c'est dommage Jimmy était pas là parce qu'il préparait les mondiaux sur 10 000. Donc c'est toujours dommage quand il manque quelqu'un. Après, c'était une course sympa. Bon, surtout, moi, je venais de louper la qualif pour les mondes. Donc ça fait toujours plaisir de gagner derrière. Et ça me rassurait en plus sur ma forme parce que là, j'étais déjà reparti à l'entraînement. J'étais déjà monté en altitude. Donc c'était vraiment pas le top. Et j'étais fort, donc ça faisait quand même plaisir. Après, c'est moins savoureux que le titre de l'année dernière où là il y avait tout le monde, il y avait Jimmy, je venais de me qualifier pour les Jeux, tout allait bien, donc voilà. Mais bon, ça reste un titre de champion de France. Et après, c'est sûr que ouais, être avec Sébastien Michaud au championnat d'Europe, c'est vraiment top parce que c'est un super gars, c'est un mec qui mérite, et c'est une discipline qui est un peu qui est un peu moins bonne au niveau français. Et le fait qu'ils emmènent quand même des gens, c'est cool. Ça peut permettre à d'autres d'arriver et à lui de prendre de l'expérience. En plus, bah voilà, il a encore montré que bah lui, quand ça compte, bah il est là. Au championnat de France, il a quasiment toujours été là. Là, championnat d'Europe, bah il se qualifie en finale, contrairement à par exemple l'autre français qui était censé être entre guillemets un peu plus fort que lui, qui là cette année passe pas en finale. Donc ça c'est vraiment top pour lui. Il prend date pour l'avenir, il prend de l'expérience et il a vécu encore une belle. Enfin le mardi, nous il y avait le stade qui était plein, donc enfin quasiment plein. Donc c'était ça a dû être vraiment top pour lui. Et puis ouais, encore partager des choses avec les mecs du SBAC, comme j'avais fait avec Pierre Pousse au championnat d'Europe de cross. Ça fait vraiment plaisir parce que bah il y a des gens qui travaillent dans ce club, il y a une bonne formation, il y a une formation qui est sportive mais aussi humaine, et ça c'est important à sauvegarder et qu'on soit récompensé, ça fait plaisir. Ouais.
Vous êtes les deux locomotives de ce club du SBAC. On peut parler aussi du docteur Schrob, tu le connais bien, il a quand même fait un sacré numéro en étant sur le podium, sur la boîte comme vous dites.
Ouais, bah c'est sûr que Yann qui a fait médaille sur le 10 000 mètres, c'est quelqu'un qui est pas professionnel, qui est en 8e année de médecine, je pense là. C'est un mec qui est super, c'est un mec qui est super sympa, qui se prend pas la tête, qui a toujours un œil d'enfant. Quand il est arrivé là, toute la semaine, il est allé regarder les autres sports, il est venu nous encourager, il était juste heureux d'être là. Et ça fait vraiment plaisir pour lui, parce que des mecs comme ça, qui se prennent pas la tête, qui sont super sympas, bah, qui gardent cette fraîcheur, bah, ça fait du bien au sport. Et nous aussi, dans un groupe, on va dire le groupe demi-fond en équipe de France, bah, c'est un super coéquipier. Donc non, tout le monde était vraiment heureux. On le voit d'ailleurs quand Jimmy passe la ligne, bon il est déçu pour lui, mais directement sa première pensée c'est bah, être content pour Yann. Et je pense que ça aurait été le cas de beaucoup d'athlètes de l'équipe de France, parce que bah c'est un super type et c'est une belle histoire.
Tu as parlé de la rencontre avec tes sponsors à venir, tu as étoffé ton équipe là, tu as une manager ou un manager autour de toi maintenant?
Bon, en fait j'ai toujours eu un manager, parce qu'on est obligé dans la clé pour pouvoir rentrer sur les compétitions et pour pouvoir négocier avec les équipementiers aussi, c'est plus facile. Mais surtout pour les compétitions. L'année dernière, j'avais changé mon manager. En fait, je suis passé avec une manager néerlandaise en octobre. Et je suis très content parce que c'est très bien passé cette année. Elle est vraiment proactive, elle est vraiment humaine. Et c'est des choses qui sont compliquées à trouver dans notre sport où souvent on a un peu de mal au niveau relationnel. Donc là, ça me fait vraiment plaisir d'être avec elle. Ça nous enlève beaucoup de pression. Et elle a été aussi performante cette année. Il y a juste une compète que je voulais faire que j'ai pas faite. Donc franchement, elle a été très très bien et ça c'est top, parce que ça aussi c'est plein de choses que les gens qui connaissent pas l'athlète ou qui sont un peu en dehors du sport comprennent pas forcément. C'est compliqué avec les calendriers des compétitions, avec qui rentre dans quel meeting. Cette année à Madrid en février, je suis rentré que 2 jours avant la course. On m'a dit que je pouvais courir que 2 jours avant la course, et en plus c'est mon manager qui m'a payé mon billet d'avion, je t'ai même pas pris en charge, et au final je finis 5e sur 14 de la course. Donc en fait j'ai largement ma place. À Rovereto là, mon dernier 5000, je suis rentré le samedi matin alors que la course était le mardi, donc 3 jours avant. Donc 3 jours où tu dois trouver un billet d'avion pour aller au fin fond de l'Italie, où tu dois t'organiser ton entraînement. Et pareil, là je finis 5e de la course sur, je sais pas, on était 25 au départ. Je pense que j'avais ma place sur le meeting, mais bon, c'est des histoires d'agents, des histoires de plateaux, des histoires d'argent. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont là et en fait qui rajoutent du stress dans une saison, qui rajoutent plein d'impacts mentaux. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est fatigué à la fin de l'année. Et donc d'avoir une bonne équipe comme ça, mon coach, mes kinés et aussi ma manager, ça permet vraiment d'être libéré.
Et là, on peut supposer qu'avec ce que tu viens de nous dire sur cette participation à des meetings où tu fais bien mieux que faire de la figuration, est-ce que ça peut être un peu plus facile pour toi l'an prochain ?
Non, pas forcément, parce qu'ils regardent pas forcément ça, les meetings. Ils regardent pas si on a été performant sur un meeting où on n'était pas censé l'être ou quelque chose comme ça. Ils regardent surtout les temps d'engagement. Et là, malheureusement, on va dire cette année, j'ai pas fait un gros temps. J'ai fait 13-12, qui reste un bon temps, mais c'est pas suffisant pour rentrer partout et pour avoir l'assurance de rentrer partout. Après, le fait que je sois régulier tout le temps dans mes sorties, ça aide forcément. Et après, ils regardent le temps, mais ils regardent aussi qui est le manager, quels athlètes ils ont déjà, quels athlètes sont bloqués par l'organisateur ou des choses comme ça. Donc, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, mais surtout, faut anticiper, en fait. Ça, c'est très important dans le sport. C'est pour ça, faut faire notre calendrier assez tôt et pouvoir envoyer, en fait, notre demande très vite au meeting, parce que, on va dire, ceux qui font leur demande en premier, ils sont quand même souvent servis. Et c'est ça qui est un peu difficile. Par exemple, là, après les Europes, on savait pas si on voulait faire vers Bruxelles ou Rovereto. J'étais en attente à Bruxelles, donc on n'a pas trop forcé sur Rovereto. D'ailleurs, Bruxelles nous dit non. On demande à Rovereto, ils nous disent ah ben non, on est full. Donc c'est voilà, c'est plein de choses qui sont compliquées. Mais voilà, ça fait partie de tout ça. Et le but, c'est aussi faire le temps que j'aimerais faire, c'est-à-dire autour de 13 minutes, voire moins de 13 minutes. Et là t'es sûr que quand tu veux faire une compète, tu l'as fait, quoi.
Il va y avoir aussi la rencontre, tu l'as dit, avec les sponsors. C'est pas simplement qu'un soutien financier, on sent aussi qu'ils sont derrière toi moralement un peu.
Ah oui, non, clairement, moi je l'ai toujours dit, c'est pas vertical, c'est pas que vertical notre relation qu'on a avec les préfets Bressuret, les meufs Célio et puis même avec la Maïf. Ils sont toujours là, ils m'envoient toujours des messages. Moi je leur envoie des messages, je les tiens au courant et ça c'est très très important et c'est vraiment un accompagnement qui est humain et un accompagnement qui est sur du long terme. Donc ça permet vraiment d'avoir confiance dans cette relation là et ça c'est top. Et là moi ça me fait plaisir d'aller les voir. D'ailleurs je vais rencontrer Alain et Fabrice, les deux chefs d'entreprise, en même temps en fait, parce que c'est un projet qui est commun, quoi. Donc ça c'est top. Et quand j'en parle à d'autres athlètes, ils sont un peu envieux, ils ont envie de mettre ça en place parce qu'ils voient que c'est ça la meilleure façon d'être soutenu. Parce que comme je l'ai dit, il y en a certains qui nous mettent un peu des bâtons dans les roues, on va dire, ou qui nous aident pas forcément au niveau institutionnel. Et là ça tranche totalement, quoi. Là c'est vraiment une aide qui a été là depuis le début de ma carrière et qui continue et qui est pas juste financière, quoi. Donc c'est top. Et eux ils savent aussi que, enfin, ils m'ont pas mis, par exemple, cette année ça a été une année, on va dire, un peu moins bonne entre guillemets, et j'ai pas eu de coup de pression ou quelque chose comme ça qui pourrait arriver avec d'autres sponsors. Non, ils sont là, ils me disent allez, on te soutient et l'année prochaine elle sera meilleure. Et ils savent très bien que moi je mets tout en place pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Donc voilà, c'est top et je sais qu'ils vont être derrière moi l'année prochaine.
Et ça aide aussi à se régénérer, comme tu l'as dit, pour ces vacances.
Ouais, non, forcément, parce que t'as pas besoin de te poser la question à l'année prochaine, est-ce que je vais avoir le soutien financier, est-ce que ça va continuer. Non, nous on a signé un contrat moral jusqu'à 2024, même un contrat écrit jusqu'à 2024, donc ça c'est top. Et par exemple, les contrats équipementiers, quand tu réalises pas tes objectifs, tu perds 50% de ton fixe. Ça peut aller jusqu'à 70%. C'est énorme. Donc quand t'as des soutiens comme ça à côté qui sont eux, on va dire, vraiment fixes et qui ont pas d'attente de résultats entre guillemets, ça enlève quand même beaucoup de poids sur les épaules.
Merci Hugo.
Merci à vous.